Bonsoir à vous, si vous nous rejoignez tout juste pour une nouvelle édition, nouvelle émission de 100% Rugby, comme chaque jeudi avec la Dream Team, à savoir le coach de l'AS Bayonne, Roger Aguerre, et notre consultant numéro 1, Yann Blanchard, qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vais déjà commencer par saluer Roger. Salut Roger.
Bonsoir.
Et merci d'être là ce soir. Alors Yann, bon, on va dire qu'il arrive. Hein. 100% Rugby, vous en avez l'habitude, c'est du lundi au jeudi, 18h-19h en direct sur France Bleu Pays Basque, mais c'est aussi, quand vous le souhaitez, en podcast sur notre site internet, sur l'application ICI. N'hésitez pas d'ailleurs à partager l'émission, à laisser vos avis sur les réseaux sociaux. On essaye de tous et toutes vous lire comme on peut. Au programme ce soir, le retour aux affaires pour l'aviron bayonnais ce samedi, avec ce déplacement à Paris au stade Jean Bouin pour affronter ni plus ni moins que le leader du championnat, à savoir le Stade Français. Une rencontre qui va donc compter pour la 21e journée de Top 14, mais surtout une rencontre capitale. Eh, vous l'avez. Dans cette course au maintien, décryptage et analyse ce soir avec l'équipe de 100% Rugby. On posera évidemment un œil attentif aux autres rencontres de cette 21e journée de Top 14, puisque certains adversaires directs de l'aviron s'affrontent et d'autres ont également de gros défis qui les attendent. Côté Biarritz Olympique, c'est une équipe très en forme que les hommes de Simon Mannix s'apprêtent à recevoir demain soir à Aguilera. C'est Grenoble qui s'avance, l'une des équipes en forme du moment, qui reste d'ailleurs sur 5 victoires consécutives. Quelles sont les chances des boys sur ce match? On va en parler ce soir avec notamment Thomas Vinclair qui nous rejoindra d'ici quelques minutes. Une 27e journée de Pro D2 qui débute d'ailleurs ce soir avec un choc entre Provence et Mont-de-Marsan. On fait le point sur les rencontres attendues et sur celles à ne pas manquer. Bonjour Yann.
Oui, bonjour. Alors, je confirme à Stéphane Garcia, avec qui j'étais à la rédaction, que l'émission avait commencé en fait.
Exactement. Les infos du jour avec Grenoble à nouveau sanctionné par la Ligue et ça la liste carotte, des nommés pour le titre de meilleur joueur de la Champions Cup 2024 dévoilée aujourd'hui. On en parle tout à l'heure. Le qui peut battre, bien sûr, avec nos deux meilleurs concurrents qui s'affrontent pour vous faire gagner deux places pour la rencontre Bayonne-Union-Bordeaux-Bègles à Jean Daugé le samedi 27 avril. Et enfin, en fin d'émission, nous recevrons Chabi Etcheverry, le co-président de l'USNA Faroua, mais surtout l'élu à la FFR en charge des compétitions, le vice-président d'ailleurs, pour évoquer cette espèce d'imbroglio autour du barrage que doit jouer l'AS Bayonne en Fédéral 3. Ne vous inquiétez pas, on vous explique tout ce soir. 100% Rugby, c'est parti.
18h-19h, 100% Rugby. 100% Rugby. Sur France Bleu Pays Basque, avec David Talek.
100% rugby pour débuter cette émission aux côtés de Yann Blanchard et de Roger Aguerre. On va parler de ce match de l'aviron bayonnais face au leader du championnat, le Stade Français. Déplacement donc au Stade Jean Bouin ce samedi à 17h. Rencontre qu'on pourra vivre en intégralité et en direct sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia. Une équipe de l'aviron qui a quand même des choses à se faire pardonner avant de défier le Stade Français. On va pas forcément revenir sur le match contre Toulon fin mars. Mais c'est ce que Grégory Pata disait un petit peu plus tôt dans la journée en conférence de presse, c'est que l'aviron bayonnais veut se racheter devant ce match. On vous livrera la compo d'ici quelques instants, l'équipe probable de l'aviron bayonnais qui affrontera le Stade Français. Mais d'abord, vos avis, messieurs, sur cette rencontre, sur les chances déjà de l'aviron face à un Stade Français, on le rappelle, leader du championnat. Je commence par toi, Roger, tiens.
Je ne sais pas si on peut parler de chance ou de résultats. Je pense que ce que va rechercher surtout l'aviron, c'est à se rassurer en termes de contenu, surtout après, tu viens de le dire, ce que peut évoquer Grégory Pata par rapport à la dernière sortie de l'aviron en Top 14 et ce match contre Toulon à Anoeta, où l'aviron a été clairement pris sur la dimension athlétique, sur la densité physique.
On pourrait dire dans tous les sens.
Ouais, mais surtout dans tout ce qui, ils sont fait qu'à bosser quoi. Donc dans les rucks, dans la conquête, dans beaucoup de choses. Donc je pense que là l'idée c'est déjà de se rassurer sur ça face à une équipe comme le Stade Français qui est leader mais on peut pas dire qu'elle est performante sur le jeu, mais elle est très pragmatique dans tout ce qu'elle fait et justement dans tous ses fondamentaux qui ont manqué à l'aviron contre Toulon.
Alors avant de passer la parole à Yann Blanchard, on va quand même saluer Stéphane Garcia qui nous a rejoint en studio et avec qui on vivra ce match samedi, ce Stade Français Bayonne. Salut Stéphane.
Salut David, bonsoir à toutes et à tous. Yann qui fait la gueule.
Même à Yann. Du coup j'en profite pour te demander toi ton avis sur ce Stade Français Bayonne, sur ce que t'en penses avant qu'on parle de la compo.
Déjà c'est peut-être le match idéal pour jouer sans pression du côté de l'aviron bayonnais. Alors oui, c'est le Stade Français, c'est le leader, c'est une équipe pénible à jouer, un pack ultra dominant, des trois quarts pas sexy derrière, mais en tout cas ça peut jouer très très fort quand il y a des espaces, mais c'est aussi un match de reprise après la trêve européenne, après l'élimination en Challenge Cup. C'est un match à l'extérieur, on le disait, donc t'as pas l'obligation de gagner, surtout après la déconvenue, la déculottée du côté d'Anoeta. Donc pour l'Aviron Bayonnais, c'est positif. T'envoies une grosse équipe, c'est pas la grosse équipe, mais c'est peut-être une grosse équipe, avec trois changements par rapport à l'équipe qui a pris la fessée à Anoeta. Donc forcément, les mecs seront meilleur qu'à Anoeta, c'est impossible de faire pire.
Yann, je te vois.
Tu voulais reparler d'Anoeta.
Il est en train d'opiner du chef, c'est pour ça.
Tu l'as, ouais. Tu l'as cité que
il six fois. Il sautille sur sa chaise et devient tout rouge.
Tu l'as dit que six fois Anoeta dans le.
Bah, c'est un échec sportif.
Oui.
C'est le dernier match.
Oui. Non, c'est l'avant-dernier match.
Non, mais Grégory l'a dit, c'est montrer un autre visage, le vrai visage de l'Aviron Bayonnais. Et c'est vrai que sur tous les fondamentaux où est très fort le Stade Français, c'est là où Bayonne a été absent. Et ça a été rare de les voir absents le combat, sur la conquête, sur les rucks, etc.
C'est... Bah, sur un paquet d'avant ultra dominé.
Ouais, c'est ça, c'est une des rares.
De dire, quoi.
Ouais, exactement. Mais vous étiez très bon. Vous m'endormiez, mais vous avez été très bon. Donc oui, c'est se rassurer là-dessus. Moi, je trouve que ce Stade Français là est premier, félicitations à eux, mais j'espère que cette saison, peut-être pas sur ce match-là, mais cette saison, le rugby triomphera, parce que c'est vraiment le rugby que je déteste. Je leur trouve pas, c'est pas beau à avoir joué. J'allais dire pas de qualité, si, bien sûr, parce que devant c'est monstrueux. Mais
l'ouverture, il y en a de la qualité, non, quand même.
Oui, oui, bien sûr, ils le perdent. Donc. Mais c'est vrai que c'est même bizarre de les voir là. On se dit depuis un long moment que ça va chuter, que ça va chuter. Bon, ça chute pas, alors c'est aussi peut-être la chance des belles saisons pour eux. Mais Bayonne a un coup à jouer sur ce match à l'extérieur.
Ah, la chance des belles saisons, la chance aussi qu'au bout d'un moment, fallait bien que cette équipe se réveille, parce que ça fait des saisons où c'est en dents de scie, alors que c'est un des plus gros budgets du top 14. Encore heureux que le Stade Français, un jour, une année, arrive à aligner les planètes pour être dans le top 3 ou le top 2.
C'est là aussi qu'on voit peut-être qu'un staff change les choses aussi, puisque non pas que les staffs précédents étaient dégueulasses, sinon Roger va me sauter dessus, mais c'est vrai qu'avec pratiquement la même équipe que la saison dernière, ils font l'exact opposé de la saison dernière, puisque là ils sont premiers.
Ouais, oui. Juste par rapport à ça, c'est peut-être aussi que on a un président qui a joué son rôle, parce qu'il faut pas se rappeler qu'en début de saison, tout le staff du Stade Français a été mis en doute par les joueurs suite à l'épisode
de la boîte de nuit,
la soirée à Pau. Ouais. Là, le pouvoir a été clairement nommé, c'est-à-dire que le président, il a joué son rôle de président, il a conforté les entraîneurs. Et malgré cette crise qui aurait pu faire partir en vrille l'équipe ou le club, bah derrière, ils ont enchaîné, ils en ont été que plus forts.
Oui, je les rejoins totalement là-dessus, parce qu'on va pas se le cacher. L'année dernière, aussi, les deux dernières saisons ont été vraiment mauvaises, parce qu'aussi, il y avait des tensions en interne. Il y avait des tensions entre Gonzalo Quesada, qui était le manager, et le DG, qui est Thomas Lombard. Le docteur Ville, le président, a décidé de donner plein pouvoir aux sportifs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'il les a confortés, même après cette histoire à Poupe, en disant, on fera les comptes, en gros, en fin de saison, et grand bien lui en a fait, mais... Écoutez, peut-être pareil, on va en prendre 40, mais j'ai envie de vous le dire ce soir, je nous vois mettre foutre le pet du côté du Stade Français. Quand je dis foutre le pet, c'est ramener des points, même ne serait-ce qu'un point.
Ah oui, foutre le pet pour toi, c'est ramener un point.
Ah ouais,
c'est ça me dit
ça c'est le poids des mots. Chez le premier alors que t'es 10e du championnat. Ben oui, ramener un point, c'est magnifique.
C'est pas pareil que foutre le pet, c'est gagner.
Non, foutre le pet, c'est aller récupérer un point chez le premier. Oui, c'est déjà pour une équipe qui joue le maintien, oui, c'est assez énorme. Donc voilà, je les vois bien faire quelque chose. Je vais pas annoncer la grande pompe qu'on va gagner là-bas, mais je vous dis juste qu'on va faire un gros match. On va faire un grand match et on ramènera quelque chose. J'espère qu'on ramènera quelque chose de là-bas.
Alors avec quelle équipe justement on va en parler dans un instant, Stéphane.
Ouais, juste avant, puisqu'on était sur le Stade Français avant d'évoquer l'équipe de l'Aviron Bayonnais, il y a quand même un joueur qui cette saison poussé notamment par Guézal peut-être, mais qui a pris une dimension. Un ancien du Biarritz Olympique, c'est Mathieu Irigoyen. Mathieu Irigoyen qu'on a vu arriver sur la pointe des pieds, comme Lucas Peyre-Blanc. Alors Lucas plus de mal parce que Mickaël Ivaldi est titulaire au poste, mais Mathieu cette saison c'est 23 matchs toutes compétitions confondues avec la Champions Cup, c'est 17 titularisations. C'est un joueur qui a pris une dimension, a pris une épaisseur au niveau du haut du corps, qui techniquement s'est affiné, un joueur qui fait jouer autour de lui, qui peut jouer numéro 8 alors qu'on le voyait simplement comme un sécateur pour découper, et il a fait évoluer son jeu aussi. Il a même été capitaine cette saison du Stade Français, donc mine de rien ça va mettre au crédit aussi de ce staff qui est arrivé l'été dernier.
Il sera titulaire d'ailleurs, il
y a
dans le stade français. Périssement sera sur le banc.
Juste découvrir cette année que c'est un énorme joueur, voilà, me paraît un peu léger. Il a une première année, oui, où il a fallu s'adapter. Quand tu pars de chez toi pour la première fois, t'arrives à Paris avec un effectif pléthorique, ce qui n'était pas le cas du Biarritz Olympique qu'il avait quitté. Oui, il a eu besoin d'une adaptation, mais après de là à dire que c'est le staff qui... Non, c'est juste que c'est un joueur que je trouve ultra complet depuis des années, qui a fait des bons choix de carrière en restant à Biarritz plutôt assez longtemps, en étant capitaine aussi à Biarritz. C'est pour ça qu'aussi tu n'as pas peur de le mettre capitaine du côté du stade français, c'est que c'est devenu un meneur parce qu'il a joué. Et c'est un modèle à suivre pour d'autres joueurs.
Pour en revenir à Bayonne, on vous envoie
que j'allais désosser alors que c'est un joueur que j'adore.
On n'a rien dit.
On vous envoie vers l'article, bien
toi,
sûr,
écrit Roger, par Stéphane. On sait que tu l'as entraîné.
Sur francebleu.fr. Tu veux pas l'équipe de Bayonne?
Je la connais pas, donc je vais découvrir.
Je vais la donner. Alors en première ligne, vous la retrouvez bien sûr sur francebleu.fr dans l'article de Stéphane Garcia. Probable, tu veux la donner, fais-toi plaisir.
Ceci, trois changements par rapport à l'équipe qui a perdu à Noëtta, j'en rappelle à Yann. Mathis Perchauff.
Ils ont perdu à Bayonne.
Ils ont perdu 46-10.
Ah ok.
Et ils ont,
donc, la déculottée d'Anoëtta, vas-y.
Bah oui, malheureusement.
Non, mais redis-le.
Mais ça tombe bien, parce que
vous savez que l'émission dure qu'une heure, les mecs. Donc on n'a pas le temps.
Les autres joueurs ont évoqué la nécessité aussi d'avaler, de comprendre ce qui s'était passé, de tourner la page. Première ligne, donc pour
c'est pas le déni, quoi.
Mathis Perchaud, Facundo Bosch, Tevita Tatafu. Deuxième ligne, avec un changement, c'est donc Thomas Seyth qui est titulaire et qui retrouve la place en seconde ligne associée à Lucas Paolos. Troisième ligne habituelle avec Pierre Huguet, Ousser Kassim et Baptiste Egui. La charnière avec Maxime Macheneau associé à Camille Lopez. Aux ailes, on retrouvera Nadir Mekdoud qui fait son retour. Le dernier match de Nadir Mekdoud en top 14, ça a remonté au 22 décembre lors du déplacement à Perpignan. C'est dire, de centre, donc Federico Mori et Arnaud Herbinartegaray. De l'autre côté, de l'autre aile, c'est Matteo Carreras. Et à l'arrière, Cher Tibérien sur le banc des remplaçants, Vincent Nuicelli, Quentin Béthune, l'ancien joueur du Stade français, Constantine Mikotadze, Rémi Bordeaux, Guillaume Rouette, qui sera donc sur le banc, Tom Spring, Guillaume Martoc et Peter Scholz. Voilà pour les 23 joueurs sélectionnés par le staff de l'Aviron Bayonnais.
Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est la grosse équipe, la grosse artillerie sortie là par Grégory Pata pour le coup.
Mis à part quelques joueurs qui sont blessés, je pense notamment à Rhys Hodge, qui était là sur le bord côté Europe Car à s'échauffer, enfin on va en tout cas préparer son retour, il fera son retour avec l'entraînement collectif d'ici une dizaine de jours après Bordeaux, Cyril Imakala aussi, enfin tout ça c'est des joueurs qui sont absents, Pascal Côté a fini la saison, donc par rapport aux forces en présence et aux forces disponibles pour Grégory Patin, on peut dire que c'est effectivement ce qui se rapproche de la grosse équipe pour l'Aviron.
Pas mieux messieurs autour de la table, Yann, Roger?
Pas mieux.
Non, une...
C'est pas Quentin Landès.
Ah, d'accord. Non, mais c'est une équipe aussi physiquement très costaud. En témoigne notamment cette deuxième ligne, Seyth Paolos, où voilà, on sent qu'on a sorti l'artillerie lourde pour contrer ces Parisiens. Et ça nous annonce voilà, un beau duel. Ça jouera certes sur le combat, mais on a vu aussi du côté d'Edimbourg, qu'on sait aussi très bien jouer au rugby, et je pense que la clé sera là aussi, c'est-à-dire supporter ce combat, mais aussi envoyer du jeu, parce que ça, le Stade français ne sait pas le faire depuis le début de la saison.
Et réponse.
Ne veut pas le faire, pardon,
samedi,
Roger, depuis le début de la saison.
Dès 16h30.
Ils ne le savent pas, ceux qui ne veulent pas.
En direct sur France.
Et toi, si t'aimes ce rugby, tant mieux pour toi.
Moi, j'aime le rugby qui gagne.
17h, beaucoup d'envoi.
C'est beau, c'est ça qui va ramener des licenciés dans les écoles de rugby.
C'est notre débat.
Le rugby qui gagne, ouais, t'as raison.
Et c'est pour la 21e journée de Top 14, dont on va parler d'ailleurs dans un instant, parce qu'il y a d'autres belles rencontres. On va regarder tout ça et on va voir ce qu'on en pense avec Yann Blanchard, avec Roger Aguerre et avec Stéphane Garcia ce soir dans 100% rugby.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Avec la grosse équipe ce soir de 100% rugby, on a Yann Blanchard, Roger Aguerre avec nous, également à nos côtés Stéphane Garcia et Thomas Vinclair qui nous a rejoint, qui revient tout juste de la conf de presse du BO. On va en parler avec lui dans quelques instants. Salut Thomas.
Et bonsoir à tous, bonsoir à tous.
J'ai cru que tu m'écoutais pas. Avant de parler du BO, la 21e journée de Top 14 qui commence samedi, on le rappelle, je vous livre les matchs et on en parle. La rencontre entre le Castres Olympique et le Stade Rochelet, Perpignan qui va recevoir Lyon, le Racing 92 qui se rend à Oyonnax. On a ce Section Paloise Montpellier, Toulon Stade Toulousain qui sera un des gros chocs de cette 21e journée, et enfin dimanche cette rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègle et Clermont. Qu'est-ce qu'on regarde déjà autour de la table? Quel match on ne va surtout pas manquer ce week-end, Roger?
Bah déjà, je vais regarder. Stade français Bayonne, déjà, c'est un match que je vais
regarder. Oh, d'accord, vas-y.
Donc, voilà. Non, mais après,
c'est vrai que l'affiche forcément Toulon-Toulouse, mais Toulouse, même s'il faut toujours se méfier en fonction de l'effectif, le nombre de joueurs utilisés, et qu'on a bien vu que dans certaines affiches
il y aura beaucoup de changements,
il y aura beaucoup de changements, donc voilà. Non, mais cette affiche elle est quand même intéressante. Après, pour moi, il y a un match clé pour une des deux équipes, c'est pour Montpellier.
Oui. Vas-y, prends les tous. Hein.
Non, mais prends le match. On pose une question. Oui. Voilà, j'analyse.
On est tous.
Donc pour Montpellier, pour moi, le match avec enjeu.
Il y a Racing.
Il y a Castres, La Rochelle.
Le match avec enjeu.
Et il y a Perpignan, Lyon.
Non, mais le match avec enjeu, c'est tout.
T'as envie d'en parler. Vas-y.
Oui, mais forcément en tant que
Racing. Le coup de cœur.
Non, mais en tant que Bayonnais, je regardais les deux matchs qui intéressent le bas du classement, c'est le Perpignan-Lyon et le Pau Montpellier, parce que Montpellier se doit de réagir après avoir pris une énorme rouste. Et ce déplacement à Pau, j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce qu'ils en sont capables sur une reprise de bloc. On sent que Montpellier avait chuté aussi parce que voilà, il y a une petite usure mentale parce qu'ils partent de très loin et le nouveau staff a dû voilà appuyer et les a un peu usés. Et Perpignan-Lyon parce que Perpi peut définitivement dire au revoir au maintien et même se projeter sur jouer autre chose, et tandis que Lyon peut se retrouver dans la mouise. Donc oui,
ce serait les affaires de l'aviron pour le coup.
Oui, bien sûr. Quelconque résultat, sauf la victoire de Montpellier, oui, sera une bonne nouvelle. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, voilà, le Toulon-Toulouse, c'est malheureusement un faux choc, puisque Toulouse fera tourner et largement tourner. Et du coup, ce match en devient, il sera peut-être beau, hein, mais pour, en tout cas, sur le papier, il en devient un peu anodin, et c'est vraiment dommage. Et bien sûr, l'UBB.
Bah, du coup, le choc, je prends le relais, mais ouais. Effectivement, UBB, clairement. Ouais. L'UBB, déçu de son élimination en Champions Cup avec les ambitions qu'ils avaient, Clermont qui surfe sur sa réussite en Challenge Cup,
le retour de tout le staff clermontois à Bordeaux,
puis voilà, il y a ça aussi, cette histoire là non, honnêtement, c'est l'affiche, et je pense que les deux staffs auront à cœur de mettre la grosse équipe pour aller chercher des points en plus importants au classement,
et c'est bien pour ça que ce match a été placé le dimanche soir et non pas le samedi, hein, pour le coup,
avec un Clermont qui, en fonction des résultats de la veille, peut se retrouver en position de barragiste selon le résultat de Montpellier, parce qu'au-delà de l'enjeu dont tu parles sur la rivalité, le staff, le retour du staff du Rios,
42 points pour Clermont.
Voilà, avec Montpellier qui a 38, donc là aussi ça peut être un match qui a un enjeu sportif très important pour Clermont.
Je proposerais très largement à l'UBB de tout donner sur ce match-là et de gérer après la fatigue en venant à Bayonne la semaine d'après en faisant tourner.
Je suis pas sûr que ce soit l'optique.
Non, pas sûr. Non. Malheureusement, vu qu'ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Europe, ça aurait été bien qu'ils continuent en Coupe d'Europe, ils l'auraient mérité.
Donc, puis Yannick, c'est pas le fil à emmener la grosse équipe à Bayonne.
Je le connais pas tant que ça,
mais puis il y a quand même un objectif maintenant de jouer un barrage à domicile avec des demi-finales qui se feront à Bordeaux.
Oui,
Et puis Bordeaux a la nécessité de gagner mine de rien. Au classement, ils sont 6e à 49, la section est à 46, enfin, ils vont venir derrière la note, donc ils ont besoin de points du côté de l'UBB et puis dans la dynamique aussi de se relancer, quoi.
Ce qu'il y a de bien, et c'est qu'avec ces, hormis les clubs qui sont toujours qualifiés, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est Toulouse et Clermont, vu qu'il y a une coupure, là, il y a deux matchs, une coupure, derrière il y aura de nouveau une coupure pour la finale de Coupe d'Europe.
Et ça veut dire deux matchs, puis une coupure.
Voilà, donc ça veut dire que là, tout le monde va pouvoir envoyer ses grosses équipes avec ses hommes en forme à chaque match, que ce soit domicile ou à l'extérieur.
Sauf le Stade et Paris, parce que ça reste deux mondes à part. Enfin, le Stade toulousain et le Stade français, parce que c'est un monde à part.
Et surtout, le Stade risque d'être qualifié jusqu'au bout. C'est ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Et Paris a un matelas d'avance qui fait qu'ils vont pouvoir se préserver peut-être jusqu'à la fin de la saison, sauf s'ils se font taper ce week-end par Bayonne. Mais on le voit de toute façon avec la composition de Bayonne, qui, voilà, il n'y a pas d'impasse, il n'y a rien, mais c'est normal parce que, bon, quand t'as enchaîné 15 matchs d'affilée, maintenant, juste jouer deux matchs par bloc, c'est pas ça qui va fatiguer les mecs, quoi.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'aviron, en fait, quand tu regardes effectivement les deux résultats qui t'arrangeraient, c'est la victoire de Perpignan contre Lyon et la victoire de la section contre Montpellier, et là à partir du moment où t'as ces deux victoires là qu'importe presque, j'allais dire, ce que tu fais à Paris, parce que,
et de l'UBB contre Clermont aussi. Non.
Oui,
l'histoire,
si tu veux, mais je veux dire, c'est pour moi, c'est une moindre mesure. C'est ces deux résultats-là conditionnent en fait le succès ou non du week-end pour l'aviron, qu'importe le résultat à Paris.
Voilà pour la 21e journée de Top 14 qu'on va un peu mettre de côté. On va passer à la Pro D2 tout de suite à 18h29 dans 100% Rugby.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% Rugby sur France Bleu.
Avec Yann Blanchard, avec Roger Aguerre, avec Stéphane Garcia, Philpa reste avec nous, et Thomas Vinclair qui vient de nous rejoindre, lui qui revient tout juste de la conf de presse du Biarritz Olympique.
Chute à l'arrière du peloton.
On va livrer dans quelques instants la composition du BO qui est sortie sur les réseaux sociaux. Mais avant, Thomas, déjà ton avis sur cette rencontre entre Biarritz et Grenoble, comment tu la sens, toi, cette rencontre?
Alors, comment on la sent? On va dire qu'il faut bien la sentir, parce que par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et le non-match choisi des Biarros, ils n'ont pas intérêt à se louper demain à Aguilera, parce que visiblement, et ça a été redit en conférence de presse, on n'a même pas reparlé de ce match de Mont-de-Marsan, on n'a pas refait le point, etc. Tout le monde était focus sur Grenoble. Après, c'est important, je te vois faire la moue, Yann, mais c'est important parce que t'es à Aguilera, tu sors de 5 victoires d'affilée à Aguilera, il faut continuer à faire de ce match à domicile, en tout cas, une forteresse imprenable. Et c'est important aussi dans l'optique du maintien, parce que t'as que 4 points d'avance, on le rappelle, sur Montauban, qui est en ce moment 15e et barragiste, le BO est 14e, et face à toi, t'as quand même une équipe de Grenoble qui surfe vraiment sur la vague. Victoire à Vannes, victoire à Nevers. 5
victoires consécutives.
Et bon, après, demain, ils ont fait un tout petit peu tourner sur leur effectif. C'est plus sur le banc où ça va être assez costaud du côté de Grenoble. Mais la grosse intégration du Biarritz Olympique, c'est quand même les blessures qui s'accumulent, avec notamment, là, on l'a apprise, la blessure de Dave O'Callaghan, le capitaine. Et ça, c'est un énorme coup dur pour le BO quand on sait ce qu'a apporté Dave O'Callaghan depuis son retour. C'était mi-janvier dans l'effectif, enfin, son retour où il enchaînait les matchs, etc., depuis mi-janvier. Ce qu'il pouvait apporter dans chaque rencontre, c'était vraiment le joueur essentiel dans le système de Simon Mannix. Et sans Dave O'Callaghan, ça risque d'être compliqué, sachant qu'il y a aussi la blessure de Farisco et aussi la blessure de Joseph.
Yann ?
Oui, non, mais ici à la radio, on est comme dans une équipe, il faut savoir jouer sur les points forts des membres autour de la table. Je comprends pas, Thomas, pourquoi on te lance pas sur l'état de la pelouse vendredi, parce que c'est quand même ce qui intéresse tout le monde. T'es quand même spécialiste.
Si on veut faire un point pelouse, je suis très chaud. Elle était un peu moins bonne, je trouve, qu'il y a 2 semaines. Si je peux me permettre.
Si t'es dispo samedi, j'ai besoin de couper chez moi.
On rappelle de plus en plus, parce que c'est la saison, c'est le printemps, etc. Voilà, il faut faire coup. Il y a les et aussi. On reviendra à ça plus tard.
Pas, si vous avez
appelez le standard et je vais vous donner mon
question. Il faut appeler Pancho. Ouais, samedi, n'hésitez pas.
Chaque matin en direct sur France Bleu Pays, chaque samedi matin. T'as un truc sérieux à dire ou je passe la parole à quelqu'un d'autre?
Non, mais je l'ai dit mardi et je vais le redire. C'est le tournant, je pense, de la saison, parce qu'en cas de victoire et en cas de victoire de Vannes du côté de Montauban, je pense que le maintien sera assuré pour le Biarritz Olympique, parce qu'il y aura 8 points d'écart entre les deux équipes, et 8 points, ça semble insurmontable vu la trajectoire qu'a pris Montauban en plus. Et inversement. Si jamais c'est l'inverse, attention à la fin de saison du BO, parce que le calendrier est vraiment pas rigolo pour lui.
On le rappelle, tu vas à Agen la semaine prochaine, puis dans 3 semaines, tu recevras Provence Rugby avant de finir à Brive. On sait pas ce que jouera Brive à ce moment-là, mais ça peut être une fin de saison très compliquée pour les Biarros. C'est pour ça que ce match contre Grenoble est très important.
On en parlait mardi dans 100% Rugby. On avait fait le point complet d'ailleurs sur le calendrier. Roger, il y a une revanche à prendre aussi quand même pour le BO. On le rappelle, ils en avaient pris 40 lors du match aller, et c'était pas le Grenoble en forme de en ce moment, quoi.
Oui. Mais Grenoble, il faut souligner quand même c'est un mot qui est très souvent utilisé, mais toute leur résilience, parce qu'avec tout ce qu'ils ont connu en termes de les points en moins et tout ça, et ils sont quand même là. Après, c'est le tournant, mais j'ai envie de dire que c'est pour le BO, mais c'est aussi le tournant un peu du classement et de la lutte pour le maintien, puisque on a Angoulême qui reçoit Brive, et on a Montauban qui reçoit Vannes, et donc le BO qui reçoit Grenoble. Et pour moi, c'est un avantage. Alors, je sais que vous avez débattu sur ça mardi, mais de jouer à 21h et de connaître le résultat de tous tes adversaires. Pour moi, c'est un avantage.
Et pas ce qui était dit mardi, du coup.
Ouais, mais moi, je pense que c'est un avantage parce que tu peux effectivement, si l'une des deux équipes perd, tu peux quand même faire, et notamment Montauban, tu peux faire quand même un sacré break.
La pression, c'est clair.
Et voilà.
Je suis à l'exact opposé, puisqu'on on a souligné toute l'année le manque de leader dans cette équipe. On a souligné la faiblesse mentale de cette équipe, parce qu'avec l'effectif que tu as, ce n'est pas possible de se retrouver à cette place. Et j'ai du mal à imaginer que savoir que que t'es dans la mouise avant de jouer, va rendre service à ces joueurs.
Ouais, joueurs. Sauf que sur la faiblesse mentale, moi je mets un bémol, il y a quand même une prise de conscience. Oui. Il y a pas longtemps, sur des, notamment
on
à domicile.
On l'a vu la semaine dernière.
Non, mais la semaine dernière, ça c'est un choix assumé du staff. Maintenant, il faut l'assumer.
C'est dégueu quand même la semaine dernière.
Si, si. Base arrière, tu te retrouves vite avec une grosse problématique quand tu finis avec Issa Mbeck en 15, c'est qu'il y a eu un problème.
Je suis désolé, pour moi, c'est un avantage de jouer ce match après les autres, parce que tu peux effectivement, tu l'as dit, hein, 8 points, tu tues le maintien, et le maintien est assuré.
On n'a pas entendu Stéphane Garcia sur cette rencontre. Non, parce Grenoble.
Il fait plus la pro des deux, il s'en fout tout simplement. Il en regarde plus un match. Donc
c'est faux en plus.
C'est faux. Des fois, il regarde juste pour se rappeler et il pleure devant les matchs.
Mais oui, je me rappelle à l'époque Bourg-en-Bresse et trucs comme ça. C'est
on a vécu des moments.
Ça fait une jeunesse.
Ouais, Bourg-en-Bresse en février, c'était
Parle d'Aurillac.
Nevers, tout ça.
Aurillac, je me suis fait une promesse. Même si je suis, même si ça dépend de ma vie, je n'y mettrai plus jamais un pied de ma vie dans cette ville.
Stéphane. Moi, je suis d'accord avec Roger sur le principe que, et je trouve que t'es dur quand tu dis il n'y a pas de leader dans cette équipe. Je trouve que, effectivement, Matthews, Yann David qui maintenant est capitaine.
Il y a une charnière qui
a pris le lead clairement. Pierre Pagès et Billy Searle aujourd'hui.
Ça sera la charnière titulaire. D'ailleurs.
Ouais, c'est leader. Enfin, je te trouve
leader
dur.
Par le jeu, par l'exemple.
Non,
ça, j'ai pas
non,
de souci
non,
avec
non.
Ça. Mais Yann David que je connais bien, c'est pas quelqu'un qui va prendre
mais
la
oui,
parole
parce
dans
que, le vestiaire. Mais c'est le contexte n'est pas le même. Yann David dans le vestiaire de l'Aviron Bayonnais avec des stars qui ont joué à l'international et tout ça, c'est une chose. Yann David quand il est à côté de lui, les coéquipiers qu'il a à côté de lui, qui ont pas la même expérience que lui, il peut se permettre de l'ouvrir et de dire des choses. Il n'y a pas un problème là-dessus.
Oui, après, c'est Thomas disait l'absence de O'Callaghan. C'est vrai que...
Ça oui, celle-là, elle est préjudiciable.
Elle est préjudiciable en termes de leadership. Parce
même
que
en termes de jeu sur les ailes. Ouais, enfin,
mais malgré tout, quand on voit la troisième ligne qui est alignée demain, Jalagonia, Mathieu,
Ogris,
et Ogris, c'est quand même une très très bonne troisième ligne de Pro D2.
Oui, mais ça, je suis désolé, on s'est répété ça toute la saison.
Non, mais bien sûr.
Et j'étais le premier à le dire, une nouvelle fois, mais ça, bizarrement, ça n'a pas suffi. Tu joues le maintien jusqu'à la dernière journée, normalement.
La compo du Biarritz Olympique, la compo officielle, je vous la livrerai, on en parle. Une première ligne, Zakaria El-Fakir, Luté Rutolai et Mohamed Awas. Une deuxième ligne, Adrian Motok en numéro 4 et Charlie Matthews en 5. Temo Mathieu portera le numéro 6, Simon Ogri le 7 et ils entoureront Tornik et Jalagonia. La charnière, on en parlait, Pierre Pagès associé à Billy Searle. Une paire de centres, Yann David, Vincent Martin. Sur les ailes, Steve Barry et Zach Chibilidje.
Non, si je prononce c'est pas bien. Ça, c'est pas ça. Comment dit?
Chibirigué. Veuillez m'excuser. Et à l'arrière.
Ça fait un peu chanson latino d'été, tu vois.
Gervais Cordin sur le banc des remplaçants. Bastien Souris, Kylian Taofifenua, Johnny Dyer, Charlie Francoz, Antoine Domerc, Nafita Laimaafou, Iliane Perrault et enfin Georgie Noutsoubidze. On en pense quoi de cette compo autour de la table? Tiens, je commence par toi, Thomas.
Moi, ce que j'en pense, c'est plutôt par rapport à ce qu'a mis Grenoble en face, parce que Grenoble, comme je te disais tout à l'heure, ils font un tout petit peu tourner dans leur 15 de départ. T'as notamment Bernabé Couillou qui va jouer, t'as Clément, le jeune 10 qui a fait que 4 titularisations depuis le début de la saison. T'as une première ligne aussi qui est assez, c'est la première ligne remplaçante normalement, et t'as du gros qui est sur le banc du côté de Grenoble. Donc, le BO, on le dit depuis tout le temps, c'est un super 15 de départ qu'ils peuvent nous proposer. Après, c'est comment ils vont réussir à mettre de l'allant offensivement et surtout dans les zones de rock. C'est là où je suis un peu inquiet parce que c'est là où le BO pêche vraiment depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver de l'avancée, mais le problème c'est qu'ils se font souvent coffrer les ballons, ils se font souvent gratter les ballons parce que ça manque de densité, ça manque de soutien, etc. Cette troisième ligne, elle est très intéressante, évidemment, pour tenir le ballon, mais après, pour mettre de l'impact, etc., je suis pas persuadé que c'est la meilleure troisième ligne que t'as, surtout, enfin, avec Dave O'Callaghan, ça aurait été différent, mais sans Dave O'Callaghan, tu perds quand même cet impact que tu peux amener dans les zones d'affrontement, cet impact que tu peux appeler ballon en main. Donc, pour moi, demain, ça va être très, très compliqué pour le BO.
Après, il y a une chose importante, c'est le banc en 6-2. Il y a un choix qui est fait par le staff, effectivement. C'est-à-dire que sur tes trois quarts, t'auras juste Domerc et Perrault. Faut pas qu'il y ait
Mahfou, il avait joué. Alors, il avait joué centre lors du match contre Mont-de-Marceau. Il est assez rapide, comme fou. Tu craques complètement.
Qu'est-ce que c'est, ça?
C'est la fin de semaine, on est en train de le perdre.
Il reste 22 minutes, c'est pas fini.
Ah oui, pardon.
Non, mais Mahfou, il est intéressant comme profil parce que c'est un joueur qui avait joué au football américain et c'est un gars qui est hyper rapide. Non, mais attends, après, si tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Mais en soi, ça peut faire un 6-2, un 5-3 et Mahfou, il peut remplacer les centres. C'est pour ça que je t'explique la compo. Après,
dans un profil que tu veux.
C'est lui qui est venu nous l'expliquer tout à l'heure. Il dit qu'il a commencé par le football américain, il en a fait pendant 10 ans, et d'où sa rapidité sur le terrain.
D'accord.
Voilà. Roger, cette compo.
sur le football, les passerelles entre le football américain et le rugby.
Non, juste la coupe pour le reste. Si tu me branches sur ça, je vais te reparler du type battre que t'as gagné l'an dernier, mais t'as pas, la semaine dernière, mais t'as pas trouvé la question, la réponse
oui,
sur
Louis Rizalit. Non, c'était les chiffres et Kansas City.
T'as pas répondu assez vite.
Je vous renvoie à FranceBleu.fr pour réécouter l'émission.
Non, après. Comme Yann l'a dit tout à l'heure, on va se répéter sur, parce que le 15 de départ, il est quand même pas digne d'une équipe qui est en lien avec le classement. Après, l'interrogation, c'est plus sur le banc, effectivement, où c'est déséquilibré. Derrière, Domergue Perrault est un très très bon joueur. Domergue était un jeune du centre de formation. Donc c'est là où j'espère pour le Biarritz Olympique qu'il n'y aura pas de pété derrière.
Et attention, parce que c'est inversement à Grenoble, puisque sur le banc, il y a quand même du José Madeira, du Blanc Mapaz, Eric Escande, Bautista Escura. Enfin voilà, c'est du lourd.
Tout à fait.
Et donc il va falloir au-delà de construire son match en première mi-temps, je pense qu'il va falloir surtout prendre l'avantage très vite dans ce match, parce qu'en deuxième mi-temps, du coup l'apport du banc de Grenoble peut faire la différence. Mmh. Et on a l'habitude de voir Biarritz des fois prendre le large en deuxième mi-temps, il va falloir le prendre cette fois-ci en première mi-temps sous peine de voir les Grenoblois l'emporter.
On reviendra à cette 27e journée de Pro D2 d'ici quelques instants, parce que là
foufou du tout.
À 18h40, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va vous inviter à nous rejoindre là maintenant au 05 59 59 17 17. En jeu dans le qui peut battre pour vous ce soir, 2 places pour la rencontre Bayonne Union Bordeaux Bègles pour voir le retour de papa à la maison. Ça sera à Jean Daugé samedi 27 avril prochain. C'est 3 questions sur l'actu, la culture rugby. C'est maintenant que ça se passe. 05 59 59 17 17 pour vous rejoindre, et ça va être une équipe dantesque ce soir.
Allez,
puisqu'on va mettre,
c'est qui papa?
On va prendre, t'inquiète, on va en parler après.
Non.
On va mettre d'un côté comme de l'autre, on va mettre Yann et Thomas face à Roger et Stéphane, et avec vous
j'ai plus,
ça va être un bordel sans nom. Le qui peut battre, c'est dans un instant. Rejoignez-nous maintenant, 05 59 59 17 17.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Voilà. Mais attends, avant de commencer
l'heure, c'est qui peut battre.
On pose déjà des réclamations avant même que c'est commencé. C'est-à-dire que Yann Blanchard a profité de l'espace de la chanson pour regarder sur l'ordinateur d'où le quiz, toutes les informations.
Mais non, pas tout le quiz.
Et te pomper le quiz.
Mais non, comment j'ai pu voir les questions?
Et t'acceptes de te faire pomper comme ça?
Alors ça dépend. Mais en même temps, je vais peut-être t'enlever un point.
Toujours demander la permission, sinon c'est.
Yann, il va partir en négatif, je pense, sur ce qui peut battre là.
Non, mais c'était pas pendant le quiz, je vois ce que je veux.
Deux belles équipes aujourd'hui. Aujourd'hui, Yann Blanchard fait équipe avec Thomas Vinclair, Roger Aguerre fait équipe avec Stéphane Garcia.
J'ai déjà moins d'un avec Thomas Vinclair.
Et on va jouer avec Jean-Marc qui nous appelle de Bayonne. Salut Jean-Marc.
Bonsoir.
Et face à vous Jean-Marc, il y a Lucas à Ustaritz. Salut Lucas.
Bonsoir.
Alors désolé, mais c'est Jean-Marc qui arrive en premier. C'est donc lui qui va choisir dans quelle équipe il veut se glisser. Est-ce que c'est plutôt team Roger Stéphane ou team Thomas Yann?
Thomas Yann.
Eh ben Jean-Marc fera équipe avec Thomas et Yann, faudra pas venir se plaindre après. Hein.
Désolé.
On est d'accord. Et donc Lucas, vous allez faire équipe avec Roger et Stéphane, on est d'accord là-dessus?
Allez Stéphane.
C'est ça.
Ok, alors on y va. Première question, le qui peut battre, vous en connaissez le principe, il y a 3 questions, 2 bonnes réponses et c'est gagné. 2 places pour Bayonne, UBB à remporter. C'est parti avec une première question.
Attends, est-ce qu'on doit laisser la question en entier ou pas?
Bah oui, comme toujours.
Non, pas comme toujours.
Comme toujours.
Non, comme toujours.
Tu me laisses finir la question.
Oui.
Ouais. Première question, monde, mais... c'est une question actualité. Le magazine Time a dévoilé son top 100 des personnalités les plus influentes du monde en 2023 et on y retrouve une tête bien connue des amateurs de rugby et des pelouses de top 14. De quel joueur s'agit-il? Oh putain,
je l'ai dit en premier.
Habituellement, je me tourne vers le technicien, mais je pense que là, même Damien, il en sait rien.
Mais j'ai dit Sia Koulizi en premier, c'est sûr. Alors là, c'est sûr et certain.
J'ai attendu le point d'interrogation, j'ai sorti Koulizi directement.
Mais non, et moi, j'ai dit Sia Koulizi.
Moi je dis Sia Koulizi et lui dit Koulizi.
La bonne réponse, c'est le capitaine de l'Afrique du Sud, Sia Koulizi.
C'est bon, allez. 0-0.
Un point pour tout le monde.
Voilà.
On va faire
Non, il faut vérifier. Comme la semaine dernière, il faut vérifier.
Pour l'instant, je mets un point pour tout le monde. Damien, si tu peux vérifier. Si tu arrives à comprendre quelque chose dans ce qui s'est passé,
ne bouge pas de cette console.
Et bien, bonne chance. Deuxième question. Là, vous allez répondre chacun votre tour. Va falloir vous concerter dans les équipes.
Non, ils viennent de lire sur internet.
Non.
Voilà. Vous allez devoir vous concerter. Chacun votre tour. Vous allez me donner une réponse.
Team Jardiland.
Et Le plus proche de la bonne remportera le point.
Ah, d'abord. Ah,
ok. On en parlait hier dans 100% rugby du talonneur et capitaine du pays de Galles, Ken Owens, qui a annoncé sa retraite. Après 91 sélections, 4 6 nations remportées.
Laisse-le répondre. Oui, je laisse, c'est à nous après.
Il est aussi un joueur emblématique des Scarlets, dont il a porté le maillot de 2006 à 2024. Combien de matchs a-t-il joué sous le maillot des Scarlets? C'est la question que je vous pose. Chacun votre tour, vous me donnez une réponse. Le plus proche de la bonne remporte le point.
T'as dit combien, 2006 et 2024?
Entre 2006 et 2024. Là, il a pris sa retraite. Peter, c'est fini.
Ça fait 18.
Ah, là, j'ai calmé tout le monde. Ah, oh, hey, Lucas, Jean-Marc, on n'est pas bien là dans le silence?
Et peu importe, oh, regarde, ça, regarde ça.
Si tu fais ça,
non, si tu fais ça,
on qui envoie les réponses.
Yann, si tu fais ça,
mais
sans déconner, quoi.
Donne-moi ton portable.
Sans déconner, il est en train de lui donner la réponse.
Donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable. Ah oui, d'accord. Non, c'est la bringue bordelaise de Benoît Cavalier.
Voilà, allez, allez.
Et je garde ton portable.
Bon, on peut. Allez, hop. C'est à vous, c'est à vous.
On va perdre le jingle là.
Alors.
C'est à vous qui commence, hein?
Oui. Moi, j'ai.
Ah, c'est qui là?
C'est qui? Lucas.
Okay, Lucas. Vas-y, bon. Lucas, jouer, Roger, Lucas. Steph, c'est votre équipe. Lucas, vas-y.
T'as pas plus précis.
283.
Ah oui.
283 pour la team.
Mais c'est le travail d'équipe, hein. J'ai confiance.
Moi, tu fais plus ou tu fais moins?
Avant qu'on réponde,
c'est le chiffre exact.
Tu réponds tout de suite.
C'est le chiffre exact.
Tu réponds tout de suite.
Mais c'est le chiffre exact.
Tu réponds tout de suite.
Tout de suite.
Je dirais rien. Tu réponds.
En plus, ça trichait avant.
Sur 20 ans, sur 18 ans, t'as 20 matchs par saison, ça te ferait 360.
Mais 284.
284.
284, la bonne réponse étant 277. C'est le point pour Lucas, Stéphane et Roger.
Bien joué, Pampoum.
Donc, t'as gagné, Lucas, parce que s'il y a collision,
ça fait que deux.
Bravo, Lucas.
Allez, dernière question.
Dernière question. Alors, si tu me sors la bonne réponse, Yann, je saurai que t'as triché. Biarritz-Grenoble, c'est demain soir. Grenoble-Biarritz, c'était le 6 septembre dernier.
Oui, il a triché, il a regardé tout. Après, avant.
Il a regardé le Pro D2.
Évidemment qu'il a regardé, on a vu la fin du match.
Historique.
Allez, on va jouer avec le 15 de départ.
Mais c'est pas comme
d'accord.
Si. Et toi, tu vas pas commenter, toi?
Et on s'en fout. Oh,
j'ai pas commenté le match.
Il vient de arrêter
de râler.
Un joueur, et il est 18h49, les gars, on va se
speeder un peu. C'est ce qu'il a consulté avant. Moi, je refuse de jouer.
J'ai pas commenté le match.
Un joueur, chacun votre tour. Le premier qui se plante a perdu et le point va l'autre. On est d'accord. Et bah tiens, Yann et Thomas, vous allez commencer.
Thomas Sauveterre.
C'est une bonne réponse.
Mais non. Bah, comment tu veux qu'on trouve, hein?
Ah bah, Compo Lubéo.
Farisco.
Le deuxième, laisse-le-moi le deuxième.
Farisco est une bonne réponse de Roger Aguerre.
Tougne.
Oui.
Kevin Tougne est une bonne réponse de Thomas Vinquier.
Ils ont regardé tout avant. El Fakir. Attends, faisons les choses bien. El Fakir.
El Fakir est une bonne réponse de Stéphane Garcia.
Jonas.
Joe Jonas.
Non, laisse-moi.
Est une mauvaise réponse.
Mais non,
Jonas était sur le
mais
banc.
Mais j'avais les cartes.
Il faut ça compte.
Mais non, le
cas.
C'est une victoire pour Stéphane, Roger, Lucas. Lucas, deux places pour Bayonne, UBB, c'est dans la poche.
Juste pour que ce soit pas une erreur, Dave O'Callaghan, comme ça on valide et on gagne. Voilà, merci.
Même en trichant, même bonne réponse, vous n'y arrivez pas. Tiens, bah du coup, allez, je te rends
franchement. On dit Benoît Cavalero qui s'était trompé, on était chez lui, quoi.
Lucas, c'est gagné. Jean-Marc, je suis désolé, il faudra revenir jouer avec nous très vite, mais on bouge pas, on sera là toute la semaine prochaine dans 100% rugby. On aura encore des places à vous faire gagner, Jean-Marc, ça sera avec plaisir. Et Lucas, un grand bravo pour le coup, parce que c'était pas simple là pour le coup, même avec des tricheurs, comme quoi c'est la victoire.
C'était 3-0.
Et ça fait un point pour Roger dans le score de 100 du qui peut battre saison 2023-2024. Lucas, bravo. Roger, Stéphane, franchement, chapeau bas. C'était pas simple celle-là. Et qu'est-ce qu'on fait nous dans 100% rugby? Bon, on continue bien sûr, il nous reste 10 minutes.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
On est reparti dans la dernière partie de ce 100% rugby aux côtés de Yann Blanchard, de Roger Aguerre. On salue Stéphane et Thomas qui sont repartis travailler à la rédaction de France Bleu Pays Basque. En fin d'émission, on vous le promettait d'évoquer l'imbroglio autour du barrage que doit jouer l'AS Bayonne, coaché par Roger en Fédéral 3. On va tout vous expliquer ce soir avec notre invité qui nous a rejoint. Il est à la FFR en charge des compétitions. Bonsoir Chabi et Echeverri.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être là ce soir. On va un petit peu déjà remettre dans le contexte, peut-être rappeler la situation, Roger, autour de ce barrage de l'AS Bayonne. En gros, c'est simple, hein, ce barrage que vous deviez jouer pour la Fédéral 3, vous comptiez recevoir à l'origine, or vous allez vous déplacer.
Disons que notre interprétation des règlements, et c'est bien, je dis bien notre interprétation, nous laissait penser qu'on aurait joué à domicile. Et c'est vrai que quand on a pris connaissance des oppositions et qu'on a comparé les critères qui sont énoncés par la Fédération française de rugby, on a été surpris. Maintenant, on est tourné par le barrage qu'on va jouer à l'extérieur.
Concentré sur le match, évidemment. Mais on va peut-être les rappeler, ces règles, Chabi, et expliquer véritablement comment ça marche, en fait, un barrage. Comment se fait-il que l'AS Bayonne doive se déplacer au lieu de recevoir?
Mais en fait, il y a trois critères pour l'établissement des oppositions sur ces barrages. Bon, d'abord, le premier, c'est que ce sont les équipes classées à la quatrième place de leur poule, ainsi que les deux meilleures cinquièmes sur les 18 poules qui sont qualifiées, soit 20 équipes.
Ce qui est le cas de l'ASB, hein, qui a fini quatrième du championnat de fédéral 3.
Qui est donc qualifié en tant que barragiste. Le second critère, c'est que les oppositions sont établies selon un critère d'optimisation géographique, tout en évitant les oppositions intra-poules.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on évite de faire rencontrer en barrage deux équipes qui étaient dans la même poule. Et le troisième critère, les rencontres se déroulent en match à élimination directe sur le terrain de l'équipe la mieux classée au classement interpool à l'issue de la phase qualificative. C'est-à-dire que quand deux équipes se rencontrent, si c'est deux quatrièmes, l'équipe qui a le moins de points se déplace chez l'équipe qui a le plus de points. Donc voilà quels sont les trois critères qui sont établis sur lesquels on se base pour établir les oppositions au niveau des barrages. Et donc c'est là où on a une incompréhension avec l'ASB et avec Roger, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger par téléphone. En fait, je pense que il y a une mauvaise lecture des règlements de la part de l'ASB. Parce qu'en fait, quand on lit les critères du règlement des oppositions, les critères sont respectés. Il n'y a pas de critères non respectés, et donc il n'y a pas de faute par rapport au règlement, en tout cas de notre point de vue.
Mais alors du coup, je demande à Roger, comment se fait-il que l'AS Bayonne, selon ce que nous dit là Chabi Etcheverry, ait demandé et écrit un courrier à la FFR pour des réclamations, entre guillemets.
Oui, mais... C'est vrai que Chabi, quand on prend l'application du règlement, effectivement, l'entente des Baronnies a plus de points que nous. On se déplace chez une équipe qui a plus de points que nous. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les critères qui sont évoqués, ils sont flous parce que dans le règlement de la Fédé, il n'y a pas d'ordre prioritaire et l'optimisation géographique, on peut y mettre ce qu'on veut derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des secteurs, les poules, il y avait 18 poules, elles sont organisées selon des secteurs. Et aujourd'hui, dans l'optimisation géographique, nous, ce qu'on a interrogé, c'est que nous, par exemple, on va faire 176 km pour aller jusqu'au Baronnies, alors qu'à Jetmo, on aurait fait 120 pour aller au Baronnies, et que la distance entre Blaye et Bordeaux, et entre Blaye et l'AS Bayonne et Blaye à Jetmo est équivalente. Et on avait plus de points que Blaye. C'est vrai que nous, dans notre lecture, on s'était basé sur ces critères d'optimisation parce que c'est des secteurs qui sont proches au niveau des poules. Donc voilà, alors... après, moi, j'ai envie de dire qu'ils héritent aussi d'une situation qui est regrettable, puisque il y a deux ans de ça, il n'y avait pas de critères d'optimisation géographique qui amènent du flou. C'est-à-dire que les phases finales étaient nationales et que si il y avait un critère national, on aurait dû se déplacer à Vincennes, par exemple. Sauf que avec la nécessité de la FFR, à juste titre, de faire des économies, les remboursements
faire
des frais kilométriques,
au club aussi,
voilà, faire des économies au club. Donc, on est dans des critères d'optimisation. Mais qui entretiennent le flou, et c'est ça qui est regrettable.
Tu veux intervenir, Yann, sur ce sujet?
Oui, non, mais je comprends la position de l'ASB, et quand Chabi l'explique, ça semble tout aussi logique que quand l'ASB nous explique qu'ils auraient dû recevoir. Après, c'est vrai que voilà, il y a des choses, là on parle de fédéral, je parle d'en dessous, notamment les finales Nouvelle-Aquitaine, où en demi-finale, on a un nouveau Saint-Pé-Ustaritz, c'est-à-dire le quatrième de la saison. Ouais. Alors, l'optimisation géographique, ok, mais les autres demi-finalistes, c'est Limoges et je sais pas qui, donc ça veut dire que si tu fais un Saint-Pé-Limoges, tu vas jusqu'à Bordeaux. Bon, mais c'est la saveur des phases finales, plutôt que de faire un quatrième CMP Ustaritz qui va intéresser
après,
tout le monde.
Moi j'ai envie de dire, parce que il y a pas de polémique, c'est juste un débat.
C'est pour ça que j'ai dit
il va m'entendre, Chabi.
Ça c'est pas vrai, parce que il va pas m'entendre parce qu'on en a déjà discuté, et le but, j'ai envie de dire, c'est que
C'est que peut-être que la Fédération française de rugby doit avoir une réflexion et que sur ces barrages, pour éviter ces critères, peut-être qu'il faut les jouer sur terrain neutre, peut-être qu'il faut les réfléchir différemment, peut-être qu'il faut déterminer en début d'année que le premier de la poule 1 rencontrera le quatrième de la poule 1, la poule 2, et ça évite ce genre de choses.
C'est un cas de figure que vous rencontrez souvent à la FFR, Chabi?
Non, et heureusement, parce qu'on n'est jamais satisfait de voir un club mécontent, hein, que les choses soient bien claires. On donne de notre temps, de notre énergie pour essayer de gérer les compétitions de la meilleure des façons possibles, la plus équitable. Peut-être qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, on essaye de faire au mieux. Après, il faut bien se dire que c'est pas simple par rapport, par exemple, à ce que vient d'évoquer Yann pour les demi-finales de série. Alors là, pour le coup, c'est géré par la Ligue. Voilà. Mais je reprends le sujet d'une façon générale. Si on rentre dans des oppositions sans tenir compte non plus d'une optimisation géographique, derrière ça, on a aussi des clubs qui sont mécontents parce qu'en fait, ils font beaucoup de kilomètres pour jouer un match de finale.
C'est ce que je disais. Chavis, voilà.
C'est toujours assez compliqué que de trouver le juste milieu, la mesure qui satisfait tout le monde. On essaye de faire au mieux. Peut-être qu'on n'y arrive pas toujours, malheureusement. Après, par rapport au cas bien précis de l'ASB, je comprends, et je l'ai dit à Roger quand je l'ai eu au téléphone, je comprends l'esprit de leur requête, mais c'est que déjà d'une, et ça je veux vraiment forcer le trait là-dessus, le règlement a été respecté. Il n'y a pas de non-respect du règlement. Et je pense que ça c'est primordial par rapport à la tenue de la compétition elle-même.
Et ce sera le mot de la fin, Merci d'être intervenu dans 100% rugby ce soir. Et à bientôt. Merci à Roger, merci à Yann, 100% rugby. C'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver bien sûr sur francebleu.fr. À la semaine prochaine, tout le monde, ciao!